Radio G. www.radio-g.fr.
Assiette pour trois. Producteur, consommateur, environnement, en AMAP. Un engagement, une émission proposée par les associations de l'Inter-AMAP du Maine-et-Loire que vous pouvez retrouver sur le site internet amap49.org. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver à l'écoute d'Assiette pour 3. Aujourd'hui, deux invités de choix dans notre émission. Ah, il y a un invité supplémentaire. Donc, pour ceux qui sont fidèles de l'émission, c'est notre coq emblématique. Il faut dire que ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit ensemble les deux familles de ce fameux coq. Alors, pour les fidèles, vous savez qu'il s'appelle Radio G. Et devant moi, aujourd'hui, j'ai Alain. Je ne dirais pas le père, non, quand même pas. Mais celui qui, dans sa ferme, a élevé les premiers jours de ce coq. Et Marie-Claude, qui est la famille adoptive de ce coq du nom de Radio G. Comment il va, Radio G?
Radio G va très bien. Il vit sa vie de coq au milieu de nos poules.
Bon, et est-ce qu'il ne gaspille pas ses grains de blé?
On fait attention, on le nourrit sérieusement dans une gamelle pour pas qu'il disperse le grain.
Bon, alors c'est très bien. S'il ne disperse pas, on n'a rien à lui apprendre. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, notre émission va traiter du gaspillage alimentaire. Alors le gaspillage alimentaire, en fait, on est tous confrontés, soit dans sa propre maison, soit aussi par les répercussions que cela implique sur l'ensemble de la vie de tout le monde. Et ce thème, en fait, il s'est imposé petit à petit dans l'équipe d'Assiette pour Trois. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a amené à vous intéresser à ce thème-là?
Il y a quelques années, j'avais vu un film documentaire de Marie-Monique Robin. Il me semble que c'était le Monde selon Monsanto. Et les premières images, c'était un entrepôt en Autriche, un immense entrepôt. Et là, il y avait un tas immense de pain invendu, de pain qui avait été remis là. Et il y avait un immense bulldozer qui remontait le tas. De temps en temps, il alimentait une chaudière. Et c'était à côté d'une usine de coquettes pour chiens, quoi. Ouais. Et alors moi, ça m'avait choqué. En tant que paysan, ça m'avait choqué. Je me dis, derrière ces pins, il y avait quand même des hectares de céréales qui avaient été semés. Il y avait du temps d'agriculteur pour les semer, du temps de paysan. Il y avait du temps de boulanger pour les faire. Ouais. Ça m'avait choqué que ça finisse finalement dans une chaudière. Voilà.
Oui. Et en même temps, on a vu ça au fil des précédentes émissions. C'est tout de la matière qui finalement n'est pas respectée en tant que telle. Et le travail qui n'est pas respecté non plus.
Oui. Quoi. Et puis au niveau écologique, c'est vrai qu'il y avait eu de l'eau avait été consommée pour faire des céréales ça touchait pas que le côté main d'œuvre.
Et Marie-Claude, qui est donc notre consommatrice du jour.
Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que quand j'avais des restes que je savais pas quoi en faire, que ça terminait à la poubelle, à chaque fois, ça me faisait vraiment mal au cœur. Et je me posais la question de me dire, mais quand même, c'est scandaleux, je jette des choses alors que ça a été produit. Et j'ai commencé à fouiller et à réfléchir et je me suis rendu compte que pour produire une baguette de pain, il faut 200 litres d'eau. Pour faire un kilo de farine, il faut 1000 litres d'eau. Donc, si je gaspille un bout de pain, je gaspille aussi beaucoup d'eau. Alors, au niveau environnemental, c'est
200 litres d'eau pour une baguette de pain?
Oui, j'ai trouvé ça.
Alors, si on part, évidemment, du grain de blé jusqu'à la fin, où on l'achète à la boulangerie.
Jusqu'à ce qu'on la consomme, oui.
C'est exactement. Énorme.
C'est énorme.
On n'imagine pas
ouais,
ça.
Ouais, ouais.
Et puis, pour la, après?
Et 1000 litres d'eau pour un kilo de farine.
Oh là là. Oui, c'est des chiffres qui, quand on n'est pas bien informé, c'est surprenant.
Quoi. Ouais,
on n'imagine pas ça.
Et après, je me suis posé la question par rapport à tout cette nourriture qui est importante, d'autant plus que les chiffres nous disent qu'en France, on estime qu'une personne sur 10 a du mal à se nourrir. Donc, on ne peut pas se permettre de gaspiller, de gâcher de la nourriture.
On parle beaucoup de la pauvreté en ce moment. Ouais. Il y a des débats justement sur c'est quoi le seuil de la pauvreté. On sait qu'évidemment, avec 500 euros par mois, et voire des fois moins, on a beaucoup de mal à acheter sa nourriture et une nourriture de bonne qualité. ces chiffres-là sont quand même à méditer très largement dans notre vie quotidienne. Donc, la part du budget des ménages, bon, on sait que l'alimentation, ça a dégringolé. Ça a plutôt décru.
Ça a décru et autant dans les années 60, ça avait une importance au-delà de 50%. Et maintenant, on est aux alentours de 20%. Oui. Et moins l'importance de l'alimentation dans le part du budget a décru et plus on a commencé à gaspiller. Oui. Parce qu'on a perdu on a pris de la distance par rapport à cette production d'aliments. On va dans un supermarché, dans un hypermarché ou même au marché chercher cette alimentation, mais on n'a plus le contact avec la terre, on n'a plus le contact avec celui qui produit, celui qui transpire pour faire ce produit-là. Voilà. Et donc, on ne donne plus d'importance à cet aliment qui est dans une boîte.
On perd le sens de la valeur, en quelque sorte, et comme ça ne vaut pas grand-chose, ben on jette.
Voilà.
Enfin, soi-disant.
Soi-disant, oui, oui. Hein?
Et en ce qui concerne la production, alors je crois qu'il y a vraiment tout un mécanisme historique qui s'est mis en place. Je sais qu'Alain, vous aviez parlé de ça. Donc, comment ça s'est passé depuis le début, cette surproduction, et comment en est-on arrivé là?
Effectivement, on va revenir un peu en arrière. Actuellement, on est vraiment dans une société de surabondance. Hein. On trouve de tout, tout le temps. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, au sortir de la guerre, bon, c'est vrai que la France sortait de la disette, hein, d'une insuffisance alimentaire. Et il y a eu des aides à l'agriculture pour qu'elle soit de plus en plus productive. Hein. Donc une agriculture très productiviste s'est mise en place pour une production de masse. Hein. Bon, en plus, pas forcément de qualité, mais une production de masse. Et très très vite, la France est devenue autosuffisante hein, alimentaire. Et des années 70, elle est devenue même une agriculture de surproduction. Quoi. Il n'y a qu'à se rappeler un petit peu les producteurs de choux-fleurs bretons qui déversaient leurs remorques sur les routes de Quimper, montagnes de beurre dans les frigos, les montagnes de viande, enfin bref.
Les pommes balancées sur la route. Les images choquent ça quand même, que tout le monde a pu voir.
Voilà. Oui, parce qu'en plus, on laissait à cette époque-là le marché tout régulé, comme maintenant d'ailleurs. Donc c'est lui qui, selon les lois de l'offre et de la demande,
régule.
Voilà, donc c'est lui qui régule. Quoi. Donc,
ouais,
Parallèlement à ça, donc dans les années 70, qu'est-ce qui est apparu? Les supermarchés. Et les supermarchés, avec Édouard Leclerc, a eu l'idée, c'est de présenter aux consommateurs de tout. Tout est disponible, quoi, en grande quantité. Quoi. Mmh. Donc on est passé dans une société, à ce moment-là aussi, après celle de surproduction, on est passé dans celle de surconsommation. Donc, de consommation et de surconsommation. Quoi. Il faut toujours consommer plus.
Toujours plus.
Quoi.
Plus vite.
Et puis les supermarchés sont habitués à une société de surabondance, en fait.
Oui. Alors, on a quand même une nouveauté en 2016, c'est la promulgation d'une loi qui a été promulguée pour éviter le gaspillage alimentaire, mais ça ne concerne pas les consommateurs. Je crois que ça correspond seulement aux grandes surfaces.
Hein. Oui, cette loi du 3 février 2016 oblige la grande distribution à distribuer les invendus alimentaires qu'elle jetait auparavant. Donc, c'est déjà bien. Il y a plus de 10 millions de repas qui ont été donnés aux plus démunis. Cependant, cette loi ne concerne que la grande distribution et n'implique pas du tout le consommateur.
Il y a un seuil en dessous, il y a un seuil de surface, je crois. Les magasins qui sont plus de tant de surface sont soumis à cette réglementation. Alors, le gaspillage alimentaire, on va voir que ce n'est pas seulement le consommateur, c'est d'un bout à l'autre de la chaîne. Et donc, il y a un site que vous pouvez consulter, qui est le site de l'ADEME. Ça suffit le gâchis, on redonnera les références tout à l'heure. Et il y a une petite vidéo avec une bande dessinée qui est très, très agréable, très intéressante, qui nous donne un peu le cheminement du gaspillage alimentaire depuis le début jusqu'à la fin. Alors, c'est l'histoire d'Agathe la patate. On va en entendre un tout petit bout.
Bonjour. Dans ma famille, on est destiné à devenir des frites surgelées depuis des générations. Et mon histoire a bien sûr commencé dans un champ. Moi, j'ai eu la chance, mais certaines de mes cousines n'ont pas été ramassées et sont restées dans la terre. Ensuite, on nous a triées. Moi, on m'a gardée à cause de mes jolies formes. Mais l'une de mes trois sœurs a été éliminée. Pas assez ronde, qu'ils disaient.
Voilà, pas assez ronde qu'il disait, pauvre patate, donc elle est éliminée. C'est le début de la chaîne, mais pendant tout le dessin animé, on va voir comment ça, petit à petit, il y a de moins en moins de patates qui vont arriver dans l'assiette du consommateur. Donc cette chaîne du gaspillage, elle vous évoque sans doute des choses.
Ah ben oui, moi en tant que paysan, à partir du moment où on est rentré donc dans la MAP, on a déjà essayé de pas être dans ce système de libre échange, de toujours offrir des choses sans savoir s'il y avait quelqu'un au bout pour le consommer quoi. Donc on a à ce moment-là, on s'est entouré de contrats, il y a un partenariat consommateur-producteur. Moi une volaille que je vais produire, si elle n'a pas été réservée par un consommateur, je la produis pas. Donc oui. En fait, je risque pas de.
Elle est sûre de manger votre
voilà,
volaille.
Exactement. Donc les amendus, ça se paye et tout le monde le paye. Hein.
Oui, c'est ça. C'est que cette surproduction qui est déclassée ensuite pour X raisons, elle est de toute façon payée. Donc il y a un gaspillage à de multiples niveaux.
Oui, oui.
Oui, selon l'ONU, 30% de la production agricole termine à la poubelle.
30%, c'est 30%. Énorme. C'est énorme, alors que pendant ce temps-là, il y a plein de gens qui...
Ouais. Alors qu'en AMAP, ce qui est produit, puisque nous signons des contrats, le producteur peut anticiper dans sa production et à ce moment-là, c'est consommé.
Alors là, c'est vraiment tout ce qui est la production agricole, la production des terres. Vous avez en AMAP aussi des pêcheurs. Donc
oui,
là, comment eux s'inscrivent-ils dans cette démarche responsable?
Donc les pêcheurs de l'île-Dieu avec qui nous passons des contrats donc via la MAP Poisson se sont engagés dans une pêche durable et responsable. Alors une pêche sélective. Donc ils ont banni pas de chalut, ils utilisent uniquement des filets.
Ils raclent pas les fonds quoi.
Non, ils raclent pas les fonds pour ramasser tout ce qui traîne. Ils ont des filets, bon, ce qu'on appelle des filets dérivants, mais sont des filets. Et en plus la maille est proportionnelle aux poissons qu'ils veulent pêcher. Donc ils n'y ont pas des jeunes poissons ne vont pas passer à travers quoi, par exemple.
Oui.
Donc déjà, c'est déjà une grosse partie de la pollution qui ne va pas être prélevée de la mer.
Qui ne va pas être perdue.
Donc il ne va pas être perdu. En priorité aussi, ils vont pêcher des espèces non menacées et des espèces moins connues, donc moins pêchées, pour éviter justement de toujours surpêcher certaines gammes de poissons.
Préserver aussi la ressource, en fait.
Voilà. Ils s'engagent aussi à protéger, via leur site de leur zone de pêche, les zones de reproduction. Pour que le poisson se renouvelle. Il promeut aussi des zones de jachère, donc de non-pêche, qui là aussi, les poissons vont pouvoir
se multiplier, se reproduire,
et puis après, se dispatcher dans les autres zones. Et puis aussi relocaliser la pêche. En relocalisant la pêche sur leur territoire maritime, en fait, ils prennent conscience que c'est à eux, c'est donc que c'est à eux, eux-mêmes, les pêcheurs, de gérer leur propre stock. Donc ça, c'est important.
Oui. Et en faisant en remplissant cet engagement, en fait, eh bien, ils évitent aussi le gaspillage, puisque les poissons sont préservés et la réserve peut croître.
Et puis là encore, il y a des contrats. C'est-à-dire qu'ils vont livrer les colis.
C'est ça, il n'y a pas de perte.
Ils ont acheté d'avance, donc ils sont
bon. Alors, ça, c'était le point de vue un peu de la production. On aura le point de vue de la consommatrice après la pause musicale.
Entrez la fête est permanente et les affaires affriolantes. Ici c'est comme au cinéma où tout séduit, où tout enchante.
C'est comme ça, va qu'on s'en va voir.
Allons-y madame, c'est à nous un mini dur, un maxi moula, Campille de Michel Sardou, six côtes de veau, six tartes aux fraises, une crème de jour, une crème anglaise, des micro-temps pour femmes à l'aise. Notre menu gourmand taillot pour le kleps et pour les marmots, nos délicieux bonbons fluo, la choucroute allégée, sveltesse, le détartre en baignoire en liesse.
C'est plus de bon, la troisième gaspillage
en S. Reprenons madame l'addition, la promo d'hier en promotion et le 2 ans d'inséduction. De l'offre explosive pour 6 packs de blancheur active, l'abonnement à TV Lessive. 3 cubits de sexy cola, des rollers farcis d'Arissa.
Couche-fourtine,
tout ça. 20 yaourts certifiés sans vache, un magnum de château qui tâche. Le déodorant super flash. Et 120 rouleaux de papier cul.
Avant tout de même, ils évacuent.
N'oubliez pas votre reçu.
Merci madame. allons vite sauter sur l'aubaine. Demain c'est sûr, viendront la peine, le chaos, la pérésina. Alors stockez nos spécimens,
garantie par Consumaba.
Mesdames, messieurs, ne poussons pas, nous disons donc une omerta et l'assortiment de fatwa. Le lot des petites choses du sexe assorti de la mise à l'index.
On est désolé d'interrompre Juliette et son consorama. Bon, personnellement, j'ai bien aimé les délicieux bonbons fluo. Je sais pas si ça vous a mis en appétit. Et puis alors, il y a notre paysanne de vache laitière que nous avons accueillie la dernière fois. Elle va être contente avec les 20 yaourts certifiés sans vache. Je pense que ça va lui faire beaucoup plaisir. Donc, deuxième volet de cette recherche d'élimination du gaspillage avec le point de vue du consommateur. Donc, Marie-Claude, je suppose que là aussi il y a toute une démarche qui a été initiée et que dans votre famille vous mettez en œuvre.
Oui, et c'est d'autant plus facile que nous avons adhéré à une AMAP.
Oui.
Et dans le cadre de cette AMAP, nous nous adressons directement à des producteurs via des contrats. Et lorsqu'on achète un produit, on sait d'où il vient, on connaît la tête de notre producteur, on mange du pain.
Il a une bonne tête en général.
Il a une bonne tête et en plus, on peut parler de sa problématique de production.
Oui.
Ça nous ramène à la vraie réalité du produit que l'on mange dans notre assiette. Et c'est vrai que si on voit arriver un légume qui ne nous plaît pas trop, on sait que notre producteur a courbé les chines pour aller le semer, le désherber, le faire grossir, l'arroser et le cueillir. Donc c'est vrai qu'on va beaucoup moins jeter par ce biais-là.
Et puis c'est l'occasion de faire des découvertes, parce que si au début on n'aime pas trop, bah peut-être qu'on va s'y accoutumer, finalement on va le cuisiner différemment et donc l'accommoder de façon très agréable.
Mmh. Mais c'est vrai que ce point-là, le respect du paysan, pour moi en tant que paysan, ça me fait chaud au cœur de voir qu'un consommateur respecte mon produit,
oui.
parce qu'il me connaît.
C'est quand même autre chose pour vous,
d'avoir
d'entendre une parole comme celle de Marie-Claude, mais qu'on a entendue au fil des émissions,
oui.
De savoir que quand même il y a une prise en compte de
voilà.
Tout ce que vous faites.
Oui. Que mon produit finalement il va être consommé jusqu'au bout. Quoi.
C'est ça. Voilà. C'est ça. Oui.
En plus, l'approvisionnement est proche. On a un bilan carbone le plus optimum possible parce que lorsqu'on se déplace à la MAP, on a plusieurs contrats, donc on récupère plusieurs types de produits. Mmh. Et le producteur, nos yaourts, ils font pas 5000 kilomètres,
ouais.
Ils font quelques kilomètres.
Donc si je comprends bien, il n'y a pas seulement éviter le gaspillage du yaourt ou de la carotte ou du pain, c'est aussi éviter le gaspillage du CO2, du transport et éviter le gaspillage de beaucoup de choses.
Oui, oui, oui.
Puis les produits sont frais. Hein. Je prends toujours l'exemple du pain là, que j'ai vu en diminution,
oui.
Qui était jeté. Ben, le pain de la MAP, c'est du pain au levain, souvent avec de la farine complète.
Oui.
Mais on le garde sur une semaine. Il se bonifie. Non, c'est fait qu'on va jusqu'au bout. Quoi. Jamais le soir, il y a un quignon de pain qui est jeté parce qu'il n'est pas sec.
Quoi. Oh, c'est dommage, on ne peut plus faire de pain perdu alors.
Ah ben non, faut inventer d'autres recettes.
Hein. Non, mais on peut faire quand même. Le pain perdu, c'est très bon, mais avec du pain qui, de toute façon, n'aurait pas été perdu.
Alors, un fromage, un chèvre chaud sur
un chèvre
tartine
chaud,
de pain.
Voilà, il y a toujours des bonnes astuces pour trouver un moyen de ne rien jeter. Et donc, cette méthode, finalement, on va arriver presque à la pratique. Maintenant, en pratique, on fait comment on gère son approvisionnement
Alors, l'avantage du contrat AMAP, c'est qu'on signe un contrat pour une année, mais le premier mois est le mois d'essai. Donc, on peut caler nos quantités, parce qu'au début, on ne sait pas trop comment on va consommer la quantité de pain, les légumes. Donc, on peut calibrer un peu nos consommations. Et puis, c'est vrai que on consomme beaucoup de la MAP et on consomme plus beaucoup...
Beaucoup moins ailleurs.
Ailleurs, voilà.
Et ce n'est pas trop difficile de trouver cet équilibre. Parce que la commande à l'avance, ça implique de prévoir et donc de savoir, d'avoir une vision de ce qu'on mange.
Il faut faire avec les aléas de la vie, avec l'évolution de la famille qui à un moment grandit avec des enfants qui arrivent, et puis la famille qui diminue quand les enfants partent. Ben, les contrats s'adaptent au fil des années. Et puis en cas de coup dur, la MAP nous donnerait l'autorisation de réduire nos consommations.
Il y a toujours un arrangement possible.
Oui, parce qu'il y a le lien. Nous connaissons le producteur et si on lui explique la situation, situation,
il va la gérer aussi. Oui. Et ça se passe dans le dialogue.
Ça fait penser à une chose, moi aussi, il y a des Olympiens qui n'avaient pas prévu assez de poulets, par exemple, et puis oui. qui ont été obligés d'aller en acheter un par malheur pour finir oui. leur mois au marché. Quoi.
Ça n'a pas dû beaucoup leur plaire.
Non, ça n'en prend plus du tout. J'avais voulu le dire. C'est-à-dire que le goût était bon. C'est là qu'ils se sont aperçus que le goût était différent. Quand
mais
même,
oui, bien sûr. Voilà. Oui, oui. Mais bon, en gros, il y a toujours moyen de s'arranger et de trouver des aménagements de contrat si tout d'un coup on accueille de la famille pendant quelques temps et qu'on a besoin de plus ou besoin de moins.
Oui, oui,
parce que les deux situations peuvent se produire. On avait parlé en préparant l'émission de tout ce qui est jeté en relation avec l'estampille qui est mise sur les produits et qui font croire à tort à beaucoup d'entre nous que le produit n'est plus consommable. Alors, Marie-Claude, vous vouliez faire un point là-dessus.
Alors, il y a deux types de dates qui sont mises sur les produits. Il y a la DLC, date limite de consommation, qui est notée par « à consommer jusqu'au » et qui dit qu'au-delà de cette date, le produit ne peut plus être vendu ni consommer, car il pourrait provoquer une intoxication alimentaire. Voilà. C'est ce qui est mis dans sur la réglementation. Bon, un yaourt de la MAP, la DLC dépassée, nous, on le mange. Hein.
Oui.
En plus, il n'y a pas
Dépend peut-être du nombre de jours de dépassement.
Voilà. Oui. Mais en plus, le paysan en la MAP n'est pas obligé, puisque c'est de la vente directe, il n'est pas obligé de mettre en fait, d'étiquette. Non, il n'est pas du tout obligé. Moi, mes volailles sont présentées, sont distribuées sans étiquette, sans
DLC. Peut-être que c'est un peu différent pour les produits laitiers, peut-être.
Non. Parce qu'on parle de participation de façon que c'est frais. Donc, le producteur s'est engagé à les produire dans la veille ou l'avant-veille.
C'est
donc, ils sont ultra frais.
Oui, il y a un engagement.
Il y a un contrat avec un engagement financier. Donc, le consommateur a déjà pré-financé, pré-commandé. Donc, le produit, il appartient déjà, en fait. Donc, il est responsable déjà de son produit un petit peu.
Juridiquement, vous voulez dire. Donc, c'est là où il faut vraiment avoir confiance.
Hein. Ah, bah oui, non, mais de toute façon, les portes des fermes sont ouvertes.
Hein, voilà. Et là, on retrouve bien cette notion de confiance qui est extrêmement importante. On l'a vu au fil de toutes les émissions. Hein, parce que même si je n'étais pas sur certaines émissions, j'ai écouté les autres. À chaque fois, on retrouve bien cette notion de confiance qui est énorme et très, très importante dans les AMAP. Sinon,
Puis bon, on produit aussi sur les fermes notre propre consommation, donc on fait la même chose que pour nous, alors donc c'est logique que ce soit bien fait. Quoi.
Voilà, donc ça c'est la DLC et...
Il y a la DDM qui est la date de durabilité minimale, qui remplace la DLUO autrefois.
C'est quand même compliqué.
Oui. C'est à consommer de préférence avant le... C'est sur les produits secs, ce sont les légumineuses,
les biscuits, les farines.
Au-delà de la date, le produit est consommable, mais il peut avoir perdu des qualités gustatives, c'est tout.
Mais il ne vous rendra pas malade.
Du tout.
Donc ça, c'est très important. Ne jetez pas votre paquet de farine à partir d'une date DMM, comme vous dites, parce qu'en fait, il ne vous rendra pas malade. Donc ça fait du gaspillage en moins. Alors, on avait parlé des emballages aussi. Économie d'emballage, c'est du gaspillage en moins, non pas de nourriture, mais de carton, de plastique, de... Parce que dans les AMAP, on apporte ses propres emballages.
Ah bah oui. Je m'en suis rendu compte dès qu'on a démarré l'AMAP en tant que consommateur. Bah, la poubelle finalement jaune du tri sélectif, au lieu de la sortir tous les 8-15 jours, on passait 15 jours, puis 15 jours, et puis finalement, pour les sortir de façon très éloignée. Quoi. Et là, je me suis dit, les moyens qu'on a mis en œuvre en AMAP, finalement, ça paye sur les emballages.
Voilà. Donc, il y a des répercussions énormes. Quoi.
On voit bien que
ça balaye très, très large. Et quand on se met à parler gaspillage, c'est pas seulement la nourriture, c'est aussi plein de choses. Gaspillage, on l'entend dans un sens très, très large.
Oui.
Pas de gaspillage du travail, pas de gaspillage de la matière, pas de gaspillage du transport, pas de gaspillage de l'emballage. Enfin, on pourrait faire une grande liste. Il y avait un petit mot qui était bien amusant quand on s'était rencontrés pour faire le début d'émission, c'était opération vide frigo.
Ah oui, l'opération vide frigo, c'est une fois par semaine, on ouvre son frigo, on sort tout ce qu'il y a, tous les petits restes qui sont là.
Mais c'est pas bon ça !
On les met sur la table et chacun prend ce qu'il a envie. Et là, en général, les enfants sont ravis parce qu'ils retrouvent ce qu'ils aiment bien et on choisit.
Donc c'est un vrai self.
Ah, c'est un vrai self. de boîtes hermétiques que nous ouvrons et...
Allez, il faut manger tout ça, et le « il faut manger tout ça », c'est pas du tout une punition, parce que c'est bon, en fait.
Tout à fait.
Voilà.
C'est très bon. Bon. C'est... On accommode les restes s'il y a besoin, on rajoute un œuf, on rajoute
l'accommodation des restes. Alors ça, on rentre dans l'art culinaire.
Oui.
N'est-ce pas, Marie-Claude ?
Alain, tu veux oui, il y a une mapienne, ça m'a fait rire, elle appelle ce plat-là le fourzitou.
Ah oui.
On y met tout ce qu'il y a dans
le frigo. Un peu la quiche poubelle.
Voilà, la quiche poubelle, mais qui était très bonne. Ah, mais,
oui.
Et souvent, il n'y a pas de reste. C'était bien cuisiné, c'était bon, il n'y a pas de reste.
Il suffit d'avoir un peu d'imagination et puis des petites notions de cuisine. Mais alors, il me semble qu'il y a une surprise pour les auditeurs, Marie-Claude.
Ben aujourd'hui, je vais vous proposer une recette auvergnate, parce que je le suis, qui s'appelle le punti et qui se fait avec... Vous savez, les feuilles de blette, la partie verte dont on ne sait jamais quoi en faire. Et bien,
oui.
En fait, cette partie verte, vous allez la garder.
Ah, chouette, alors.
Vous allez la découper, vous allez la conserver. Donc, je vous donne les proportions.
Oui.
250 g de farine, 1 demi-litre de lait, 3 feuilles de blette, la partie verte, comme je vous disais, 250 g de pruneaux dénoyautés, 5 œufs, 1 oignon... Et du persil, un peu de ciboulette et après un petit peu de beurre. Alors après, vous assaisonnez comme vous voulez. Vous faites une pâte comme une pâte à crêpes avec tous les ingrédients que vous avez.
Une pâte à crêpes un peu plus...
Épaisse.
Un peu plus épaisse peut-être.
Tout à fait. Avec tout ce qui est vert, le persil, le vert des feuilles de blette et
oui.
Tout ça, vous faites un hachis fin.
Mmh.
Vous hachez aussi l'oignon. Et vous rajoutez du sel, du poivre.
On ne fait pas revenir les feuilles, tout ça,
Non.
On les coupe comme ça, tout ensemble, un petit hachis fin.
Voilà, tout cru. On met toute cette partie crue dans la pâte à crêpes.
Oui.
On rajoute les pruneaux.
Mmh.
On beurre un plat à gratin. On met cette préparation dans le plat. Et on glisse au four pendant 30 minutes, thermostat 7.
Et on mange, et on déguste.
Et on déguste, tiède ou froid.
Bon, je ne sais pas ce qu'un en pense, je ne sais pas ce que les auditeurs en pensent, mais on s'en vit très bien chez Marie-Claude. Hein.
Mmh. Je pense qu'il est, c'est intéressant. Là.
Oui, on a un petit peu faim.
ça doit être très bon. Il va être pratiquement l'heure que l'on se sépare. Il y a encore des annonces à faire, et donc je vais tout de suite vous proposer un livre qui s'appelle « Les épluchures, tout ce que vous pouvez en faire ». Alors là, vous trouverez une foule d'idées pour éviter de perdre des épluchures. On croirait qu'on ne peut rien en faire. Eh bien si. Donc c'est paru aux éditions Erol. C'est un livre de Marie Cochard. Je dois aussi vous signaler le site qui nous a permis de trouver notre fameuse Agathe la patate. Eh bien, vous pouvez la retrouver, Agathe la patate, et je suis sûre que ça vous plaira, sur un site de l'ADEME. Mais c'est un site qui, en fait, s'intitule « Ça suffit le gâchis », en un seul mot. C-A-S-U-2-F-I-T et le gâchis. Donc, www.ça-suffit-le-gâchis.fr. Et vous retrouverez plein d'éléments, à la fois pratiques, statistiques et humoristiques aussi, puisqu'on a notre fameuse Agathe. Je vous assure que c'est vraiment, ça vaut le coup de le voir. Il me reste aussi à vous parler des émissions qui vont avoir lieu d'ici cette fin d'année scolaire, puisqu'en fait notre programme s'interrompra en juin avant les vacances d'été. La prochaine émission aura lieu le 10 avril et aura pour thème la consommation et la santé. Il y aura ensuite une émission sur les fruits le 24 avril, puis nous aurons toute une émission sur les pêcheurs. Alain nous en a dit un mot tout à l'heure déjà, c'était fort intéressant. Et là, ce sera détaillé, ce sera le 8 mai. Le 22 mai, là, on se lèche les babines. On aura une émission qui s'intitule « Un plat de lentilles à trois ». Et le 5 juin, une émission sur éducation et nourriture. La dernière émission, ce sera une surprise. Donc merci Marie-Claude, merci Alain de toutes les précieuses informations que vous nous avez données. Merci Philippe d'avoir assuré la technique au volant de la console qui me paraît à moi si complexe, je vous assure, quand je vois tous ces boutons. Bravo Philippe. Assiette pour trois vous donne donc rendez-vous le 10 avril à 13h sur Radio G 101.5 ou en podcast sur radio-g.fr. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.